du côté Sirot Halekhaf Alef, première sicha sur Vayakel. Alors notre paracha, elle fait suite aux dernières parachiotes qui ont expliqué en long, en large et en travers toute la construction et toute la composition du Mishkan, du temple dans le désert. Et on sait que le Rambam, il explique à merveille toutes les lois du temple. Et le Rabbi ici va s'intéresser au dernier chapitre de ces lois-là du Rambam, qui traite spécifiquement de la garde du temple. On sait très bien que la nuit, il n'y avait jamais personne dans le temple. Il y avait un roulement de kohanim, de prêtres qui devaient faire des tours. C'est ce qu'on appelait la garde du temple. Et dans l'avant-dernière loi de ce chapitre, du dernier chapitre, alors même il dit que peu avant le lever du jour, on vérifiait la cour pour vérifier que tout va bien, que tout est en ordre. Et on avait besoin que chaque kohen ait une torche allumée dans sa main pour pouvoir bien vérifier. Et la dernière loi, elle dit, mais par contre, quand c'était Shabbat, ils n'avaient pas de torche pour vérifier, ils utilisaient des bougies, des lampes qui avaient été allumées la veille, qui étaient suspendues, et grâce à ça, ils pouvaient vérifier si tout était en ordre dans la cour. Alors a priori, il y a une question qui se pose ici, c'est que le fait de transporter une bougie, un feu, c'est pas interdit de la Torah, c'est interdit seulement des Rabbanan. Et on sait que tous ces interdits-là, ils s'appliquent pas dans le temple. Dans le temple, c'est seulement les interdits de la Torah qui s'appliquent. Donc ici, pourquoi on se priverait de faire la garde avec cette torche comme les autres jours de la semaine? Alors il y a certains commentateurs qui vont dire, mais on peut vérifier sans. Pourquoi tu as besoin de transgresser quelque chose? Ok, très bien, on sait que ces lois-là, elles ne s'appliquent pas dans le temple, mais si on peut le faire, pourquoi pas? Mais c'est pas vrai, puisqu'on voit qu'il y a d'autres endroits où le Rambam lui-même, il parle de certains cas où on peut largement éviter de transgresser ces lois-là, et on n'évite pas, on cherche pas à l'éviter. L'exemple qu'il donne, le rabbi, c'est, on sait que quand il y a un Kohen Gadol qui est soit âgé, soit malade, le jour de Kippour, il doit se tremper au mikvé. Si le mikvé il est très froid, ça va être très difficile pour lui. Donc on permet de chauffer le mikvé avec une espèce de barre de fer qui était chauffée à blanc la veille de Shabbat. Et quand elle était encore chaude, on l'a déposée dans le mikvé pour chauffer l'eau. C'est interdit de faire ça Shabbat. On aurait pu trouver un autre moyen de chauffer qui soit moins grave. Mais on n'a même pas cherché à éviter ça. Encore un autre détail que le rabbi mentionne, c'est si jamais le Kohen Gadol il s'endormait, on sait qu'il ne devait pas dormir toute la nuit de Yom Kippour, alors il y avait un Lévi qui venait et qui claquait des doigts pour le réveiller. Alors qu'on sait que le Rambam lui-même, il est d'avis qu'on n'a pas le droit de claquer des doigts pendant Shabbat. Donc ça veut dire que lui, il est d'avis que ces lois-là, on n'y fait pas du tout attention dans le temple, même quand on a la possibilité de faire autrement. Donc pourquoi ici on va éviter, on va se priver de transporter les torches pour vérifier la cour? Alors on pourrait répondre que quand c'est quelque chose qui arrive de manière ponctuelle, on va permettre de transgresser ces lois-là. Mais quand c'est quelque chose qui est fixe dans le temple, alors on ne peut pas, depuis le départ, enlever ces lois. Quand ça arrive qu'on ait besoin de les transgresser, alors il n'y a pas de problème. Mais quand tu le fais de manière permanente, là c'est une autre histoire. Le rabbi n'accepte pas cette réponse. Ici, c'est un cas un peu particulier du fait d'étendre les peaux des sacrifices. Et si la veille de Pessah, elle tombait Shabbat, alors on le faisait exactement comme si c'était un jour de semaine, sans faire de distinction. Donc ça veut dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que toutes les fois où la veille de Pessah, ça tombait un Shabbat, à chaque fois, on faisait de la même manière. C'est pas quelque chose qui peut être appelé quelque chose de ponctuel. Là aussi, c'est une règle qui est fixe. Donc on voit que ça dépend pas de si c'est fixe ou c'est ponctuel, ça dépend d'autre chose. Rabbi, il ajoute encore deux questions ici. Premièrement, qu'est-ce que cette loi, elle vient faire dans le chapitre qui parle de la garde du temple? Ici, le Kohen, il est en train de vérifier que tout est prêt pour le service du lendemain. Ça doit figurer dans le chapitre qui parle du service. Pourquoi ça figure dans le chapitre qui parle de la garde? D'ailleurs, même dans le chapitre qui parle du service du temple, il fait mention aussi de cette vérification du Kohen. Donc pourquoi il vient mentionner cette loi ici? Et en plus ici, il coupe en deux. Première loi, voilà comment ça se passe en semaine. Deuxième loi, voilà comment ça se passe Shabbat. Et c'est avec ça qu'il termine. Mais il t'aurait dû faire tout ça en une seule fois, en une seule loi. C'est la même chose. Pourquoi tu coupes en deux? Et on sait très bien que le Rambam, il est très pointilleux sur chaque numérotation de chaque loi de son livre. Alors le Rabbi, il donne la réponse suivante à toutes ces questions. Au tout début de ce chapitre, le Rambam lui-même, il explique pourquoi on a besoin d'avoir une garde dans le temple. Est-ce qu'on a peur des ennemis? On a peur que le temple il se fasse attaquer? Pas du tout. On sait très bien que le temple, c'est le temple de Dieu, il est gardé par Dieu. Si on a institué une garde dans le temple, c'est pour la splendeur, pour l'honneur, pour la gloire du temple. Un palais où il n'y a pas de garde, il n'y a pas de soldats, il n'y a personne autour qui est délaissé, qui est abandonné, c'est pas un palais. La maison de Dieu, c'est évident qu'elle doit être gardée 24 heures sur 24. Donc c'est véritablement pour l'honneur du temple. Donc ici, quand on parle de vérifier la cour, c'est pas juste vérifier pour être sûr qu'elle est apte à recevoir à ce que le service du lendemain il puisse s'appliquer. On vérifie la cour parce que c'est un honneur pour le temple qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui fasse une ronde dans la cour. Et d'ailleurs, il disait pas ah tout est en ordre, tout est ok pour demain. Il disait quoi? Il disait shalom, akol shalom, tout est bien, tout est en paix. Et pour aller un peu plus loin, le rabbi, pour comprendre véritablement, il va prendre l'exemple de Hanouka. On sait qu'à Hanouka, on a eu le miracle de trouver une fiole d'huile qui était pure alors que tout était impur dans le temple. Mais on sait très bien qu'il y a certains avis qui disent que dans la situation dans laquelle les Juifs se trouvaient, il n'y avait absolument aucun problème d'allumer la menorah avec de l'huile impure. Il n'y avait aucun problème d'après la halakha. Donc pourquoi Dieu il s'est embêté, entre guillemets, à faire ce miracle d'avoir trouvé une fiole d'huile pure? C'est pas pour que les Juifs ils puissent respecter la loi. La loi, elle permettait une huile impure. Mais c'est juste parce que Dieu il a voulu montrer son affection pour le peuple juif, pour leur dire, regardez, je vous permets de faire la mitzvah du mieux possible. C'est pas que c'est interdit. Tu aurais pu faire avec de l'huile impure. Mais moi, je viens te donner quelque chose en plus parce que je t'aime. Et c'est un peu le même principe ici. Si la garde des Kohanim, elle était là pour vérifier que le service puisse bien se passer le lendemain, etc., c'est une chose. Mais si la garde, elle est là pour l'honneur du temple, alors là, c'est complètement autre chose. Si c'est pour un service, bien sûr qu'on va se suffire d'une permission, on va se suffire de transgresser des lois qui s'appliquent pas de toute façon dans le temple. Mais si c'est pour l'honneur du temple, l'honneur, la splendeur du temple, alors on va chercher à faire le mieux possible, à faire les choses de la manière la plus belle possible. Et donc on va pas se permettre de transgresser certaines lois quand on va faire cette garde-là. On va pas s'appuyer sur des permissions, on essaye de faire les choses au mieux qu'on peut. Maintenant, on comprend pourquoi le Rambam il a séparé ça en deux lois différentes et pourquoi il a mis ça dans ce chapitre. Ce chapitre, il est en train de parler de la garde. La garde, c'est pour l'honneur du temple. Et maintenant, tu es en train de dire, on va aller vérifier la cour, c'est aussi pour l'honneur du temple. Donc, bien sûr que ça passe dans ce chapitre. Et tu vas séparer en deux en disant, mais il y a quelque chose qui donne encore plus d'honneur dans le temple. C'est que quand c'est Shabbat, je vais faire le mieux. Je vais même pas prendre la torche dans la main. Ça rajoute encore à l'honneur du temple. Donc, bien sûr, je le mentionne dans une loi séparée à part. Alors maintenant, le rabbi vient répondre à une question qui pourrait se poser. On sait que dans le temple, on offrait des sacrifices pendant Shabbat. Donc, on ne faisait pas attention à tous les interdits d'égorger, de faire brûler, d'offrir tout ce sacrifice. Il y avait énormément d'interdits. Et pourtant, c'était une mitzvah de faire le sacrifice du jour de Shabbat pendant Shabbat. Mais d'un autre côté, on voit que pour la construction du temple, on n'avait pas le droit de construire le temple pendant Shabbat. Et d'ailleurs, c'est de là qu'on apprend tous les interdits, toutes les interdictions de Shabbat. C'est toutes les interdictions, toutes les actions qu'on avait besoin de faire pour construire le temple. Alors comment expliquer cette contradiction? En vérité, une fois que l'endroit il est déjà là, une fois que le temple il est déjà construit, la sainteté elle réside déjà à l'intérieur. Et donc toutes les actions qui vont être accomplies dedans, même des actions banales, vont devenir des actions saintes, quelque chose de saint. Donc là, on comprend qu'on puisse transgresser certaines choses, puisque de toute façon, ça rentre dans la sainteté. Mais quand le temple il n'est pas encore construit, tu es encore dans l'étape de la construction. Alors tu peux pas t'appuyer sur certaines permissions, sur certaines choses, en disant de toute façon c'est pour Dieu. Mais l'endroit n'est pas encore construit, l'action elle n'est pas encore devenue sainte. Et c'est peut-être pour ça que Hanouka y a eu ce miracle, parce que Hanouka ils étaient en train de réinaugurer le temple de nouveau, en recommençant tout à zéro. Donc là tu peux pas t'appuyer sur certaines permissions. Ici c'est la même chose. Tout ce qui est lié à l'honneur du temple, c'est une partie intégrante de sa construction quelque part. C'est pour ça que dans les lois de la construction du temple, c'est pas les lois du service du temple, le Rambam il mentionne le fait d'avoir des gardes dans le temple. Parce que ça fait partie de son honneur, de sa construction finalement. Et donc là, tu peux pas t'appuyer sur certaines permissions. Alors on pourrait se demander, mais quel rapport le fait de faire des gardes et de donner de l'honneur au temple, ça fait partie de la construction du temple. Quel rapport entre les deux? Mais finalement, quand on regarde ce que le Rambam il dit, il n'y a pas une mitzvah de construire le temple. Il y a une mitzvah qu'il y ait un temple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvah dans la construction elle-même. Il y a une mitzvah d'avoir un lieu dans lequel tu vas faire résider Dieu, qui va être la maison de Dieu. Et la mitzvah, elle commence à partir du moment où le temple il est terminé. Ça veut dire quoi qu'il y ait un temple? Que tu puisses voir de manière claire, ça c'est un temple, ça c'est la maison de Dieu, ça c'est une maison où il y a de l'honneur, où il y a de la gloire. Et comment il y a de l'honneur, comment il y a de la gloire? C'est essentiellement aussi avec les gardes, le fait qu'il y ait des roulements de gardes. Donc oui, les gardes du temple, elles font partie intégrante. C'est la suite logique, l'aboutissement normal, évident, de la construction et du fait qu'il y ait un temple qui soit digne de ce nom. Donc bien sûr que le Rambam y met dans le chapitre sur la construction du temple. Et encore une fois, évidemment que dans ce cas-là, on ne peut pas s'appuyer sur certaines permissions, comme on vient de le voir. Le Rambam, il aime toujours connecter la fin d'un sujet avec son début. Et ici, on voit clairement que dès le départ, quand le Rambam dit à une mitzvah qu'il y ait un temple, et ça, on vient de voir, ça inclut quoi? Ça inclut le fait qu'il y ait un honneur dans ce temple avec les gardes. Les gardes, il en parle à la fin de ce chapitre. Donc le début de ces lois et la fin de ces lois, c'est une suite logique, c'est connecté de manière très profonde. Donc ça fait sens finalement. Et pour terminer de manière un peu plus profonde, en allusion, on peut voir quelque chose ici, dans ces lois du Rambam. On sait que la construction du temple, elle ne sera jamais parfaite tant que Mashiach n'est pas venu. C'est que lors de la venue de Mashiach qu'il y aura le troisième temple, que là, la construction sera vraiment parfaite. Et c'est pour ça que le Rambam, il termine ses lois en disant: voici une loi, quand c'est le jour de Shabbat, voilà de quelle manière on fait la garde. Pour nous dire, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est un mot qui désigne aussi toute cette période de Mashiach, le jour qui sera entièrement Shabbat. Pardon, la période qui sera entièrement Shabbat. Donc, on termine avec Shabbat en disant, le temple ne sera achevé que quand le Mashiach arrivera. Et à ce moment-là, on pourrait se dire, mais notre travail à nous pendant cet exil, à quoi il sert? De toute façon, il n'y aura rien, ça n'aura pas de valeur tant que Mashiach n'est pas là. Et on vient avec cette loi qui nous dit, la nuit de Shabbat, la nuit, ça représente l'exil. Ils n'avaient pas de lumière dans leurs mains. Non, justement, ça veut dire, le jour de Shabbat, donc ce soir-là de Shabbat, où ils n'auront pas de lumière dans leurs mains, ils n'auront pas de torche dans leurs mains, c'est-à-dire qu'à l'époque de Mashiach, quand ce sera Shabbat, on n'a pas de lumière, on n'a pas de Torah et Mitzvot. Dans le sens où ce n'est pas la Torah et les Mitzvot qu'on va accomplir quand Mashiach viendra, ce n'est pas elles qui auront la plus grande valeur. Au contraire, ils vont se servir des torches qui ont été allumées depuis la veille de Shabbat, depuis la période de l'exil. Nos Mitzvot qu'on accomplit en exil, c'est elles qui vont éclairer et qui auront une véritable valeur lorsque Mashiach viendra. En espérant qu'on arrive à cette période le plus vite possible, Bézat HaShem.